Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été, une émission préparée par Fanny Richer, Virginie Leduo, Catherine Donnet et Marie Vidal, réalisée par Jean-Christophe Francis, accompagnée ce soir à la prise de son de Dali Yaha. Les Chinois sont devenus des consommateurs avant de devenir des citoyens. Formule lapidaire et réductrice, telle que le reconnaît d'ailleurs lui-même le chercheur Jean-Pierre Cabestan à propos du degré d'engagement de la population chinoise qui demeure, selon lui, encore loin du politique. Et pour cause, si l'on regarde les constitutions de 1954, le président de la République populaire de Chine y cumulait la plupart des pouvoirs spéciaux. Quant à celle de 1982, le pouvoir et l'avenir du pays y étaient concentrés au sein d'un parti communiste unique et tout-puissant. Situation historique très vite résumé, tout cela pour dire que la société chinoise a bien vite et très longtemps été mise à l'écart et que, comme le dit le chercheur que j'ai cité à l'instant, la participation politique étant rarement suscitée par le pouvoir en place, il a fallu qu'elle s'impose par le corps social. Un corps social qui se mobilise de manière visible, surtout en temps de crise. On l'a vu encore une fois il y a 2 semaines avec la catastrophe de Tianjin. Dès le lendemain de l'explosion de produits chimiques dans cette zone portuaire chinoise, les habitants, les ouvriers étaient les premiers à s'exprimer avec virulence au micro des médias occidentaux sur le silence du gouvernement, sur la gestion aveugle d'une crise environnementale, économique et sociale. De ces bribes de colère qui nous parviennent, de ces mobilisations que nous voyons, entendons de loin, sur la toile, dans certaines rues, que peut-il advenir? On le voit, on le lit, la censure ne peut pas tout contre la colère du peuple et on insiste à un investissement progressif du terrain social chinois. Mais jusqu'où peut-il prendre de l'ampleur? À l'instar de ces mouvements que l'on a vu naître dans quelques pays arabes en 2011, dont les citoyens se sont battu pour plus de démocratie, y aura-t-il un jour un printemps chinois? C'est notre sujet du jour. Et pour en parler, ils sont trois ce soir. Émilie Frenkiel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris-Est Créteil. Vous êtes également chercheuse au LIPA, laboratoire d'études du politique. Et vous êtes aussi co-rédactrice en chef de la revue La Vie des Idées. Avec vous pour discuter, Jean-Louis Roca, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargé de recherche au CERI, le centre de recherche international rattaché à Sciences Po. Et vous avez également enseigné la sociologie à l'Université chinoise de Tsinghua. Et notre troisième invité sera avec nous au téléphone depuis Hong Kong. Il s'agit de Nicolas Béclin. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Je vous remercie d'être avec nous, d'autant plus que vous êtes resté réveillé pour nous. Il est minuit passé chez vous actuellement. Vous êtes donc directeur régional pour l'Asie du Sud-Est au sein d'Amnesty International. Alors je voudrais d'abord qu'on revienne sur les événements de ce mois d'août en Chine et notamment sur la catastrophe survenue dans la zone portuaire de Tianjin dans le nord-est du pays. C'était le 12 août dernier exactement, une explosion dans un entrepôt où étaient stockées des tonnes de cyanure de sodium, plus de 120 morts d'après les derniers bilans. Et donc après ce bilan, il y a eu cette gestion catastrophique de cet incident par les autorités chinoises. Dans les médias occidentaux, on a beaucoup entendu de réactions d'indignation de la part de la société civile face au mutisme du gouvernement. Est-ce qu'un événement comme celui de Tianjin peut se révéler comme le point de départ d'un mouvement de mécontentement plus collectif, plus général, Émilie Frenkiel?
Je voudrais apporter peut-être un tout petit peu relativiser. Il me semble que la communication de crise du gouvernement n'était pas parfaite et elle a été critiquée. Il ne me semble pas qu'elle a été catastrophique. C'est-à-dire qu'elle a mis du temps à se mettre en place.
Les pompiers ne savaient pas toujours où ils mettaient les pieds au début. Ils se sont exposés à des risques. Et il y a eu aussi le maire, un responsable de la municipalité de Tianjin qui a fui une conférence de presse parce qu'il ne savait pas répondre aux questions des journalistes.
Voilà, ils étaient très, très gênés. Sur le moment, en fait, ils n'ont pas empêché
ils ont réagi tard.
Les pompiers contractuels de créer de multiples explosions, etc. Vous avez tout à fait raison. Maintenant, c'est assez intéressant de voir que même en termes de couverture médiatique, même à l'étranger, en fait, de la réaction du gouvernement à différents niveaux et de la réaction de la presse chinoise et des mesures de censure qui ont été mises en place, en fait, il y a déjà des interprétations qui divergent. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes et à la fois, il y a tout de même eu un moment où on a trouvé, notamment dans des sites très sérieux de journalisme d'investigation, des journalistes qui trouvaient que les médias chinois, même médias liés au parti, avaient assez bien joué leur rôle et que le gouvernement les avait laissés contrairement à d'autres cas plus ou moins récents, les avait laissés en fait faire un travail d'investigation.
Il y a eu deux temps en fait, c'est que dans un premier temps, enfin, il me semble, vous allez peut-être me contredire, les journalistes n'avaient pas le droit d'utiliser d'autres sources que les sources que les agences de presse officielles chinoises. Et puis petit à petit, en fait, il y a eu une certaine liberté dans la couverture de cet incident, mais ça a été tardif, non ?
Oui, mais bon, il faut relativiser aussi des choses dans le sens où quand on voit comment la crise de Fukushima a été gérée par les Japonais, comment en Inde à l'époque de Bhopal, comment en Italie même à l'époque des tremblements de terre à L'Aquila, il y a eu des ratés, mm-hmm. etc. Donc bien évidemment, les Chinois, enfin le gouvernement chinois de manière générale n'est pas très très fort en relations publiques. Hein. Ils savent pas faire, hein, c'est très clair. Ils s'en mêlent les pinceaux, ils ont une réaction immédiate en cachant tout. Il y a des mauvaises réactions et il manque de conseillers en communication. D'une certaine façon aussi, il faut savoir que dans les cas où c'est très bien pris en charge, dans les sociétés modernes, c'est aussi des endroits où on manipule aussi les masses. Hein, c'est-à-dire où les conseillers en communication sont très très forts pour contrôler l'ensemble des informations de manière beaucoup plus intelligente et fine. Les dirigeants chinois manque de finesse dans la manipulation parce que tout se voit et tout se voit aujourd'hui de manière extrêmement claire quand il y a ce genre de phénomène. Donc oui, il y a eu une mauvaise, on peut dire, gestion, mais ce qui me semble plus intéressant, c'est plutôt d'essayer de retrouver les raisons. D'une part, de ces accidents, on peut dire industriels, où là on peut faire aussi des parallèles d'ailleurs avec d'autres accidents,
oui,
et peut-être les conséquences aussi que ça peut avoir. Et là-dessus, il y a eu tout de même des choses intéressantes qui se sont passées. Bon, c'est intéressant par exemple de voir qu'on peut voir sur Internet des vidéos où on a des propriétaires d'appartements. Alors attention, c'est pas des gens qui protestent, ce sont pas des gens qui protestent contre la pollution en tant que telle, parce qu'on a très peu d'informations là-dessus. Ce sont des gens de la classe moyenne, et même plutôt de la haute classe moyenne, qui ont acheté un appartement dans la région. On leur a expliqué qu'on allait avoir des écoles, qu'on allait avoir des universités, des shopping malls, etc. Et puis ils se retrouvent à côté d'un truc qui explose, etc. Ils sont vraiment pas contents. Donc, c'est un phénomène qui est tout à fait intéressant, et de voir évidemment les énormes problèmes qui sont liés ou la corruption qui règne évidemment en Chine. Et là, les autorités chinoises eux-mêmes reconnaissent tout à fait la question, puisqu'il y a un certain nombre de gens qui ont déjà des problèmes, ou bien évidemment les autorisations avaient été achetées manifestement auprès d'organismes qui qualifiaient les endroits, ou qui qualifiaient pas les endroits pour stocker des produits dangereux.
Si je vous pose la question de savoir si la réaction de mécontentement que l'on a pu entendre, nous, via nos médias, de la part d'habitants chinois, peut donner lieu à un mouvement de mécontentement un peu plus global, c'est parce qu'il y a eu quand même toute une série ces derniers temps d'incidents de ce genre, un peu moins graves peut-être, ou tout aussi graves, mais qui ont donné lieu vraiment à une émergence d'un mécontentement qu'on entendait peut-être moins avant, alors peut-être parce que c'était moins couvert aussi par les médias. Mais du coup, je voulais qu'on entende Nicolas Béclin sur la question. Est-ce que ce genre de réaction de mécontentement qu'on a pu voir émerger au lendemain de Tianjin, de la catastrophe de Tianjin, ça peut donner lieu, pour vous, vous qui êtes à Hong Kong, à un mouvement un peu plus collectif, un peu plus suivi, un peu plus fédéré de la part de la population chinoise contre le gouvernement ?
En un mot, non. Je pense que le gouvernement chinois a mis en place au cours des dernières années un système de réponse aux crises qui est très efficace, même si au début, comme l'a souligné vos intervenants, le pouvoir, qui est un pouvoir autoritaire, a toujours un petit peu de mal à faire démarrer la machine. Mais les deux caractéristiques, je crois, qu'on trouve en Chine, c'est d'une part une grande capacité de réponse technique, logistique aux catastrophes naturelles et industrielles. Donc on est loin des cas comme le Pakistan ou l'Inde où les secours arrivent extrêmement tard, le gouvernement semble paralysé, etc. Donc une très grande capacité de réponse logistique, mais en même temps, et sans doute ce qui fait la particularité de la Chine par rapport aux autres pays, aux autres types de catastrophes industrielles que Jean-Louis Roca a mentionné, du Japon à la France, c'est que pour le pouvoir chinois, immédiatement, la question qui se pose, c'est celle de la stabilité sociale. Et donc, il va y avoir immédiatement une réponse qui doit répondre à cette exigence de maintenir la stabilité sociale. Quel est le problème pour le parti ? Le problème, c'est que un incident de ce type peut exposer l'envers du système. À la fois le fait que l'appareil politique est corrompu et que les lanceurs d'alerte ont été systématiquement emprisonnés, mis sous silence, etc. Et qu'il n'y a aucun des contrepoids qui normalement sont là pour prévenir ces crises, comme une presse indépendante, des avocats, une société civile, des ONG qui peuvent fonctionner dans un cadre libre. Donc ça, c'est le cadre dans lequel se placent ces incidents. Maintenant, en Chine, depuis des années, le pouvoir sait répondre à ces crises. Depuis le tremblement de terre du Sichuan jusqu'aux émeutes ethniques de Urumqi en 2009, le scandale du lait contaminé, l'incendie de la télévision centrale, je crois que le pouvoir a acquis une technique assez efficace qui lui permet de maîtriser le risque politique de ces incidents.
Je voyais réagir Jean-Louis Roca à l'évocation de ce concept de stabilité sociale que vous évoquiez.
Oui, alors bon, je pense que tout pouvoir hein, face à ce genre de choses a des réflexes hein, de stabilité sociale. Là, tout le monde, je pense qu'à Fukushima aussi, ça existait.
Est-ce que ce type d'incident de Tianjin peut justement faire vaciller
Il faut peut-être élargir d'une certaine façon les choses. C'est-à-dire, je ne pense pas que la stabilité sociale et politique aujourd'hui en Chine repose simplement sur la capacité d'un pouvoir qui serait devenu intelligent, parce qu'en même temps, il n'est pas si intelligent comme ça, on voit, puisqu'il manque quand même de conseillers en communication. Alors, effectivement, il y a tout un ensemble de dispositifs, et d'ailleurs, on les utilise déjà aujourd'hui. On parle de le gouvernement de racheter les appartements des gens qui ont eu des appartements qui ont été détruits, donc on achète, hein, d'une certaine façon aussi, la paix sociale. Donc ça, c'est un premier élément. Mais le deuxième élément, c'est, je crois, par rapport à la Chine, on a toujours tendance à faire, disons, réfléchir en termes de oui-non. Hein, c'est-à-dire, ils sont contre ou ils sont pour le gouvernement. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que en Chine, aujourd'hui, les gens protestent constamment. Les paysans, parce qu'on leur confisque leurs terres. Les propriétaires d'appartements, parce qu'on les a roulés sur les mètres carrés. Des histoires de pollution, il y en a sans arrêt aussi. Des usines qui polluent l'air, l'eau, etc., etc. Donc, il y a un fort mécontentement. Les gens sont pas mécontents, ils sont pas contents non plus parce qu'aujourd'hui la nouvelle classe moyenne, les jeunes générations ne peuvent plus acheter l'appartement parce que c'est trop cher l'immobilier, etc., etc. Donc on a des tas d'idées, enfin et d'envie de protester. En même temps, dans la même discussion, les gens qui protestent, les gens qui sont mécontents, vont vous dire que, mais en même temps, le Parti communiste est une institution qui a permis le développement économique de la Chine, que le gouvernement central, lui, est un bon gouvernement avec des bonnes orientations. Et que le problème vient au niveau des gouvernements locaux qui sont corrompus et que le gouvernement central n'arrive pas à faire telle ou telle chose. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de convergence, on pourrait dire, globale entre les objectifs de la réforme ou les objectifs des réformes qui vont jusque dans quand on voit comment les choses se passent jusqu'à plus de droits, plus de réglementations, plus de respect des protestations. etc., etc. Donc, et avec le désir de la population. Ce que veut la population, c'est absolument pas la révolution. Il n'y a pas de groupe, on pourrait dire, révolutionnaire. Les gens les plus actifs dans la protestation, ce sont déjà plutôt bien installés dans la vie, qui en veulent plus, qui veulent plus, justement, de protection, qui veulent que le gouvernement, finalement, fasse ce qu'il dit qu'il veut faire, d'une certaine façon. Mais il n'y a pas de divergence, fondamentalement, entre les idéaux du gouvernement, qui est de développer l'économie, de rendre la société plus calme, plus stable, plus harmonieuse. Sur tous ces éléments-là, la population est tout à fait d'accord. Et donc, on voit très peu de gens qui sont prêts, on pourrait dire, à prendre des armes ou à prendre des risques, même, pour évidemment, si on avait un gouvernement qui n'était pas répressif, on pourrait imaginer des tas d'autres choses, bien évidemment. Mais il se trouve que la situation chinoise est comme elle est à l'heure actuelle.
C'est tout le paradoxe de la société chinoise aujourd'hui, selon vous, Émilie Frenkel, des gens qui voit plein de raisons de se mobiliser, mais qui en même temps ont un peu peur du changement, d'un changement radical.
Oui, en effet. Alors, pour vous donner des statistiques, quand on en avait encore, en termes d'incidents, donc on parle de stabilité sociale, les dernières statistiques qui datent un peu, hein, maintenant qui doivent avoir peut-être 4 ans, disaient qu'il y avait à peu près 180 000 incidents. Mouvements sociaux, révoltes, émeutes, enfin voilà, de différents types, par an en Chine. Et donc ça avait augmenté d'année en année depuis, on va dire, les débuts des années 90. Ça ne veut pas dire qu'en fait la Chine va imploser. Il y a un mécontentement, mais il faut se demander envers qui, en fait, envers qui est-ce qu'on se révolte.
Est-ce qu'on l'entend plus aujourd'hui ou est-ce qu'il se manifeste plus?
Il se manifeste plus, on l'entend plus. Internet permet aussi de relayer davantage, en fait,
on va en parler, l'information.
Oui. Si je peux me permettre, on en tient compte aussi beaucoup plus au niveau gouvernemental. C'est-à-dire qu'on est à l'affût du moindre incident et pour réagir le plus rapidement possible.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement central se positionne de façon à dire qu'en fait... il peut pas tout contrôler. La Chine est très grande. Il y a énormément de fonctionnaires, énormément de couches de gouvernement, enfin d'administration, etc. Et qu'il a besoin d'entendre la voix du peuple. Donc, si on entend plus les protestations, si on entend plus la colère, notamment sur Internet, mais aussi parfois dans la rue, etc. C'est parce que, en tout cas, c'est le récit qui est fait, hein, que le gouvernement veut entendre la voix des gens pour justement pouvoir répondre à leur mécontentement. Avec un rythme effréné de réformes, de développement, de transformation, en fait, les gouvernants doivent tout le temps être mis à la page et ils ont besoin, en fait, des citoyens qui se mobilisent, même s'il faut qu'ils le fassent de façon responsable, civilisée, etc., pour justement pouvoir s'améliorer. C'est vraiment un discours qui, me semble, prend d'autant plus qu'effectivement il y a une convergence, en fait, entre notamment entre les classes intermédiaires, les classes moyennes, les aspirants à la classe moyenne et le discours du gouvernement.
Le gouvernement veut entendre la colère des gens, mais est-ce qu'il met tout ce qu'il faut en œuvre pour y répondre, Nicolas Béclin?
Oui, d'une certaine manière, la politique en Chine, pour le parti, c'est identifier quelles sont les demandes sociales, et ensuite décider à quelles demandes il faut répondre, quelles demandes il faut canaliser et quelles demandes il faut supprimer. Donc ça, c'est la politique au jour le jour, si vous êtes le secrétaire du parti dans une province ou dans une municipalité. Si on regarde évidemment le rapport de force entre l'État et la société en Chine, il est écrasant pour l'État. La société civile en Chine est extrêmement faible. Si on définit la société civile comme une sorte d'espace constitué dans lequel les citoyens ou des groupes de citoyens peuvent discuter de la chose publique, elle est extrêmement limitée. Et la censure de la presse, la censure d'Internet, la censure de l'université, de la publication, tout ça est extrêmement forte et extrêmement efficace. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des débats vigoureux en Chine et que les gens ne sont pas capables d'exprimer leur mécontentement. Ça veut simplement dire que ce mécontentement ne peut pas s'incarner dans des institutions sociales qui progressent et qui peu à peu, disons, arrivent à circonscrire le pouvoir de l'État.
Et comment elles peuvent s'incarner justement alors? Comment est-ce que ces mécontentements peuvent...
Il ne peut pas s'incarner. Je crois que ce que vous soulignez, et plusieurs intervenants y ont touché déjà, c'est que depuis 1989, qui est le printemps chinois, finalement, le printemps chinois, il est derrière nous, c'était le mouvement démocratique de 1989, le parti doit son succès à sa stratégie de réponse aux demandes de la société avant qu'elles deviennent des demandes politiques. Donc en 1989, ils avaient raté le coche. Il y avait un certain nombre de demandes sociales qui venaient de la citoyenneté chinoise sur des questions politiques, mais aussi sur des questions d'économie, d'inflation, contre le népotisme, etc. Ces réponses n'ont pas été... Le parti n'y a pas répondu et c'est devenu un mouvement politique. Et il a fallu envoyer les chars pour écraser tout ça dans le sang. Depuis 89, le parti a appris et répond aux demandes sociales. Simplement, aujourd'hui, on arrive à un point du développement économique et social de la Chine où il devient beaucoup plus complexe pour le parti de répondre à ces demandes. Et dans une large mesure, dans les 10 dernières années, au nom de la stabilité sociale, on a eu recours plus à la répression que à la cooptation et à la canalisation de ces demandes. Donc aujourd'hui, on arrive dans un point où on a beaucoup plus de tensions sociales, sans pour autant avoir une perspective où la société arrive à déborder l'État.
Et est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Louis Roca, avec ce que vient de dire Nicolas Béclin? Est-ce que le gouvernement répond aux demandes sociales?
Je dirais deux ou trois choses. La première chose, c'est que finalement, si le gouvernement chinois est un gouvernement qui répond à la demande sociale, finalement, c'est un bon gouvernement. C'est-à-dire qu'en philosophie politique, on peut considérer donc que d'une certaine façon, il donne satisfaction à la population. Sauf à considérer évidemment que la population est complètement subit un lavage de cerveau constant, etc., etc. Ce qui serait quand même une offense à faire vis-à-vis de la population chinoise aujourd'hui, qui sont, je crois, des gens que l'on peut, dont on peut respecter les opinions, surtout si on veut qu'ils soient des véritables citoyens. Le deuxième élément, c'est que je crois qu'il faut, c'est un peu compliqué d'opposer des citoyens, par exemple, de sociétés démocratiques, etc., avec des citoyens chinois qui, eux, ne seraient pas impliqués, ne voudraient pas changer les choses, etc., etc. Je pense que cette problématique de la société civile est une problématique qui est un peu difficile à utiliser, parce que, après tout, aujourd'hui en France, qui vraiment s'investit dans la politique, qui véritablement est un citoyen, qui prend par exemple, qui participe à des mouvements de protestation contre la pollution, on en voit évidemment extrêmement peu. Donc, je dirais qu'il faut... c'est pas parce que, d'une certaine façon, la population chinoise aujourd'hui ne se révolte pas contre le parti ou ne crée pas, on pourrait dire, des associations, qu'il n'y a pas de conscience citoyenne. Simplement, la conscience citoyenne aujourd'hui en Chine, c'est une conscience citoyenne qui met en avant la stabilité. C'est-à-dire que les élections, c'est un élément de déstabilisation, c'est compliqué à mettre en place, on a des partis, on peut plus prendre les bonnes décisions tout de suite, rapidement, y compris même créer des organisations, des associations, etc. On entend des gens qui disent, oui, mais chacun crée son association, qu'est-ce que ça va faire, comment le gouvernement va prendre des décisions, regardez comment ça se passe dans telle ou telle région du monde. Je crois qu'il y a fondamentalement, au cœur de la citoyenneté, on pourrait dire revendiquée aujourd'hui chinoise, le fait que, avant tout, le bonheur, ou en tout cas ce que l'on recherche dans la vie, c'est une amélioration constante de la situation actuelle, et avec dans un élément de stabilité, avec un gouvernement qui peut prendre les bonnes positions parce qu'il a suffisamment de pouvoir.
France Culture, du grain à moudre d'été, Émilie Chaudet.
Y aura-t-il un jour un printemps chinois? C'est la question à laquelle on tente de répondre ce soir avec nos trois invités. Émilie Frenkel, maître de conférence en sciences politiques à Paris-Est-Créteil. Jean-Louis Roca, chargé de recherche au CERI, le centre de recherche international rattaché à Sciences Po. Et Nicolas Béclin, responsable de la région Asie du Sud-Est au sein d'Amnesty International. Alors, on parlait justement, vous disiez à l'instant, Jean-Louis Roca, que c'est pas parce qu'il n'y avait pas d'organisation, d'association reconnue, qu'il n'y avait pas forcément de contestation. Mais qui conteste aujourd'hui? Quelles sont les populations qui contestent aujourd'hui le pouvoir et la manière que le pouvoir a de répondre aux demandes de la société civile chinoise, Émilie Frenkel?
Vaste question. Qui conteste ouvertement le pouvoir? Très peu de personnes. Parce que c'est vraiment ce qui est le plus tabou en Chine. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont contester des mesures précises, des gestions de crise. Voilà.
Il y a eu une mobilisation assez suivie à l'automne dernier contre cette réforme électorale voulue par le gouvernement, donc qui concernait principalement la ville de Hong Kong. Et c'était principalement des étudiants, mais dont le mouvement s'était effiloché faute de leadership, d'après ce que disaient les étudiants dans la presse, en tout
Alors
cas.
Alors là, on est à Hong Kong. Hein.
Oui, voilà, très
on
différent.
Est, là, je vais faire quelque Justement, chose complètement
voilà, c'est
tabou.
Intéressant de pointer
ce
les
n'est
différences.
Pas la Chine. Bon, là, l'ambassade va immédiatement appeler. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas la Chine au niveau du territoire, bon, parce que la question a été réglée. Ce n'est pas la Chine au niveau de la société. On n'a pas du tout le même type
en quoi ça change, justement.
De société. Bah, on a une société. Bon, Nicolas Béclin connaît sans doute encore mieux que moi, puisqu'il est. Il y réside, mais c'est une société quand même qui est très particulière, qui s'est émancipée, on pourrait dire, de la tutelle chinoise sous à l'époque de la colonisation anglaise, qui a obtenu un statut de démocratie, on peut appeler ça comme ça, même si c'est une démocratie qui est un petit peu particulière, il y a quand même des droits démocratiques, une presse quand même qui est relativement libre, des élections, même si elles sont un peu contrôlées, etc., etc. Et la spécificité de Hong Kong, c'est d'une certaine façon, c'est qu'elle elle joue sur les deux tableaux, c'est-à-dire que c'est à la fois la Chine, donc elle profite de la proximité avec le gouvernement chinois, proximité ethnique, politique, économique, etc., etc. Parce qu'il faut savoir que le grand boom de l'économie chinoise a commencé par la délocalisation de l'industrie de Hong Kong sur le continent. En même temps, ils ont une situation particulière puisqu'ils jouissent eux d'un certain nombre de droits, d'un niveau de vie incommensurable. Et donc, si vous voulez, tout le jeu de Hong Kong, y compris dans cette question de démocratie, c'est pas d'étendre la démocratie à l'ensemble du continent, c'est au contraire de faire en sorte que Hong Kong reste un élément tout à fait isolé, puisque bien évidemment, si la Chine devenait démocratique, à la limite, on aurait une situation où il y aurait une espèce d'égalisation des conditions, et donc la perte d'un certain nombre d'avantages, on pourrait dire, de la part de Hong Kong. Donc on est dans des situations qui sont tout à fait... Et d'ailleurs, un mouvement de Hong Kong qui a d'ailleurs très peu suscité d'intérêt d'ailleurs sur le continent parmi la population.
Nicolas Béclin voulait réagir à votre propos.
Oui, je pense que ce qui est très intéressant lorsqu'on regarde Hong Kong, qui effectivement est une société et qui a un régime juridique et politique complètement différent de celui de la Chine continentale, puisqu'il a un haut degré d'économie, d'autonomie, l'état de droit, une presse libre, etc. Mais néanmoins, ce qui est très intéressant de regarder, c'est que le premier cercle de population qui est immédiatement au-delà du cœur du régime chinois continental, c'est-à-dire Taïwan, Hong Kong, le Tibet et la région ouïghour, donc turcophone du Xinjiang. Donc, disons, tout cette espèce d'anneau qui entoure la Chine et qui sont donc les premiers à recevoir un petit peu la colonisation politique du système politique chinois sont toutes en révolte. Le Tibet s'est révolté en 2008 à la veille des Jeux Olympiques. Le Xinjiang s'est rebellé en 2009 dans un bain de sang à Urumqi et depuis dans une montée de la violence et d'actes terroristes. Taïwan, l'été dernier, avec le mouvement des tournesols, où les étudiants chinois, les étudiants taïwanais ont investi l'exécutif pour empêcher que le gouvernement taïwanais passe un accord de libre-échange économique avec la Chine continentale qui leur est trop liée. Et puis, à l'automne dernier, le mouvement des parapluies à Hong Kong, où on voit également une jeunesse, et ainsi que d'autres classes sociales qui se sont joints, enfin essentiellement une jeunesse, qui se rebelle aussi contre le fait que Hong Kong est en train, voit ses libertés progressivement s'éroder. Donc je pense qu'il faut aussi faire un petit peu confiance aux gens qui ne sont pas dans des capitales éloignées et qui regardent la Chine à travers Internet et des ouvrages savants, mais qui voient de jour en jour quel est l'impact de cette puissance autoritaire à très grand poids économique sur leur cadre de vie. Alors, ça devrait nous interroger sur l'attrait de ce système et sur les tensions qui la soutiennent, parce que ce sont dans ces régions qu'on les voit apparaître, mais rien ne nous dit qu'elles ne sont pas également latentes de la même manière dans le continent chinois.
Alors juste, tous les trois, vous êtes en train de souligner les disparités géographiques, sociales, quant à la mobilisation, à la capacité à se mobiliser pour formuler des demandes, des revendications de droits. Il y a donc cette question d'Internet à laquelle vient de faire allusion Nicolas Béclin. Vous, Émilie Frenkel, dans un article que vous avez coécrit justement avec Jean-Louis Roca, il y a un chapitre qui s'appelle « Entre les mailles de l'Internet chinois ». Vous dites que, en fait, il y a plus de la moitié de la population chinoise qui n'a pas accès à Internet. Alors même si c'est un lieu qui a vu éclore des blogs, des mots de la contestation chinoise d'aujourd'hui, ça reste, il y a quand même des limites à ce facteur de mobilisation aujourd'hui.
Oui, vous avez raison. Alors, d'année en année, en fait, l'accès à Internet, notamment grâce à l'accès aux téléphones mobiles et connectés à Internet, donc cet accès augmente. Donc maintenant, on est à plus de la moitié de la population qui peut se connecter, on a basculé. Mmh. Ça veut quand même dire qu'il y a un grand nombre de Chinois qui ne peuvent pas se mobiliser sur Internet, notamment les populations rurales, les populations plus âgées. Ils ne peuvent pas le faire directement, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas indirectement y avoir accès par le biais de membres de leur famille, de leur village, etc. En général, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, quand je parlais de ces 180 000 incidents au départ, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ce n'était pas justement les populations qui ont accès à Internet, ces classes moyennes et aspirants classes moyennes, qui se révoltaient dans les rues. C'était justement ceux qui ne pouvaient pas avoir accès à Internet, oui. Puis aux réseaux sociaux, maintenant qu'ils sont apparus aussi récemment. Donc il y a encore des répertoires d'action autres pour ces populations qui ne sont pas connectées. Ça ne veut pas dire non plus que les populations rurales et même très éloignées de la capitale ne peuvent pas trouver des moyens de se connecter. Mais ce qui est intéressant quand on parle de l'Internet chinois, c'est qu'il est malgré tout très urbain, assez élitiste, et que justement, du fait de la répression, des contraintes de la censure, de l'autocensure, ceux qui s'expriment et qui arrivent à lancer des débats, en fait, ce sont quand même des gens qui sont très éduqués.
Qui sont pas qui sont suivis ou qui...
Qui sont suivis, vous voulez dire...
Par le reste de la population, par une communauté?
Oui, il y a une communauté d'internautes, et puis ils sont... Alors bien sûr, il y en a toujours, mais c'est pareil, je pense, surtout dans le web mondial, hein, partout, il y a une élite d'internautes, il y a ceux qui participent et qui ne sont pas forcément représentatifs, en fait, du reste des internautes, qui sont beaucoup plus passifs, qui ne sont pas d'accord mais ne l'expriment pas, etc. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ceux qui se sentent libres et pour lesquels la censure n'est pas vraiment un problème, en fait, qui ont trouvé tout un tas de moyens de la contourner. Mais ceux-là, en fait, sont les premiers à trouver que la censure est vraiment nécessaire pour bâillonner ceux qui ne sont pas aussi responsables qu'eux, aussi civilisés, qui n'ont pas bien compris les règles du jeu et le chaos que pourrait entraîner une trop grande liberté d'expression, notamment.
Surtout que vous, Jean-Louis Roca, vous dites que la censure est de plus en plus diffuse et de plus en plus inefficace, justement, sur Internet.
La censure brute, on pourrait dire, c'est-à-dire on interdit, on ferme, etc. Bon, tout ça marche pas très bien. Ce qui, par contre, marche beaucoup mieux, c'est la capacité des autorités chinoises elles-mêmes à manipuler l'information. On retrouve ce qu'on disait tout à l'heure au début sur la capacité des gouvernements à manipuler. C'est-à-dire que les Américains sont bien plus efficaces que les Chinois dans la manipulation de l'opinion publique, par exemple. Bon, donc là-dessus, les autorités chinoises font des progrès, même au niveau local. On voit des gens qui utilisent le Twitter local, qui manipulent, qui payent des gens même pour intervenir sur Internet, etc., etc. Donc, si vous voulez, il faut pas pendant un certain temps, on considérait que Internet allait déclencher des révolutions, etc. On voit bien, et tout ça, tous les gens qui travaillent sur les mouvements sociaux voient ça de cette façon-là. Hein. C'est-à-dire que l'Internet ne déclenche rien. L'Internet peut aider, peut effectivement permettre d'organiser des choses avec des gens qui sont connectés à des distances importantes, etc. Mais à l'inverse, l'Internet est aussi une fantastique, évidemment, un fantastique outil pour les conseillers en communication, dont devraient se doter d'ailleurs les autorités chinoises, comme je le disais tout à l'heure, et qui finement manipulent les choses. On voit bien ça dans toutes les grandes démocraties. Donc je pense que effectivement Internet est un élément aujourd'hui important et qui joue son rôle, mais ce n'est pas quelque chose qui va miraculeusement transformer les choses. Je voudrais ajouter par rapport à ce que dit insister sur un point, cette question de qui s'exprime sur Internet, c'est-à-dire qui s'exprime sur Internet, c'est effectivement la voix
des... Toute la question de qui prend possession de la parole.
Ce sont les gens relativement aisés, des classes moyennes, etc. Les migrants, par exemple, utilisent Internet. Ils utilisent aussi beaucoup le téléphone. Ils sont devenus très très experts dans cette matière-là, mais pas pour faire de la politique, évidemment, pas pour exprimer globalement leur opinion. D'ailleurs, on aimerait savoir ce qu'est vraiment l'opinion des migrants aujourd'hui. Il n'y a pas d'études sérieux sur les migrants. Il y a un certain nombre de gens qui disent voilà l'intérêt des migrants, voilà ce que les migrants devraient faire, etc. Mais des vraies expressions des migrants chinois aujourd'hui ou des paysans chinois aujourd'hui, on en trouve extrêmement peu. On en trouve très peu aussi d'expressions des gens qui sont dans les villes, des chômeurs, des gens en difficulté, etc., etc.
Il est difficile d'établir une carte des revendications de la société chinoise, Nicolas Béclin.
Oui, je pense que l'Internet, finalement, a une place plus importante en Chine, simplement parce que les autres forums ne sont pas possibles. Donc il n'y a pas d'espace politique ouvert sur lequel on puisse débattre de façon ouverte des questions politiques ou même des questions sociales qui pourraient, aux yeux du parti, déstabiliser la société. Et donc Internet joue sans doute un rôle plus important en Chine qu'il pourrait jouer ailleurs. Simplement, l'articulation entre Internet et les mouvements sociaux, il faut quand même deux choses. Il faut évidemment l'information, ça permet d'échapper un petit peu au contrôle et à la censure de l'État, mais finalement pas tant que ça, parce que ce qu'il faut pour ça, c'est qu'il y ait une certaine mémoire, une certaine indépendance de l'information qui est sur Internet. Et pour l'instant, le gouvernement chinois était extrêmement habile à aspirer toute information de façon à ce que ces citoyens finalement restent dans l'ignorance, si ce n'est sur le moment, au moins quelques mois et après ces incidents. Deuxièmement, il faut que Internet puisse être un instrument de mobilisation et d'organisation. Or ça, encore, le parti est extrêmement vigilant et quiconque essaye d'utiliser Internet pour organiser un groupe, pour organiser une manifestation, immédiatement le travail de la police se concentre sur eux. Enfin, je voudrais quand même dire que je suis très attentif au fait que Jean-Louis Roca met en perspective le fait que certains des problèmes de gouvernement sont communs aux démocraties et aux régimes à parti unique. Les États-Unis, les grandes démocraties manipulent leur opinion publique, etc. Je pense que la différence qu'il y a entre la Chine et ces pays, d'une part, c'est que le degré de répression politique, d'abus des droits de l'homme, de torture, etc., j'en passe, est quand même assez d'une échelle tout à fait différente, mais aussi dans les systèmes politiques, disons, plus ou moins ouverts, il y a là, dans leur système, la possibilité d'une contestation de ce régime. Donc on peut venir sur France Culture et dire que les démocraties sont des systèmes politiques imparfaits. En Chine, ce système n'existe pas. Vous ne pouvez pas venir à la radio ou à la télévision chinoise pour critiquer le système et pour dire que finalement le régime à parti unique est quelque chose qui est un obstacle à ce point dans le développement de la Chine, plus que une garantie de sa stabilité et de sa puissance future. Une différence de marque.
Sur le point de ces impossibilités au sein de la société chinoise, je voudrais vous citer le propos d'un autre chercheur, François Cabestan du CNRS, qui dit que depuis les massacres de Tiananmen, donc cette répression policière en 1989, toute tentative directe de transformation du système politique par la mobilisation est vouée à l'échec. Est-ce que vous êtes d'accord autour de cette table? Et si oui, en quoi ce type de mouvement citoyen ne peut plus marcher en Chine aujourd'hui, Jean-Louis Roquin?
Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure à propos des régimes démocratiques et des régimes démocratiques, c'est de dire que c'est pas parce que les régimes démocratiques et les régimes non démocratiques ne sont pas identiques, sont différents, que obligatoirement ils sont toujours différents sur tous les plans. C'est-à-dire qu'on vit aujourd'hui dans un monde quand même relativement global. Où il y a des échanges économiques, où il y a des échanges intellectuels, où il y a des échanges critiques, etc., etc. Et donc, on ne peut pas opposer deux mondes qui seraient totalement séparés. Donc, il y a des points communs aujourd'hui dans la société chinoise, comme dans la société des sociétés démocratiques, qui sont des points communs et des points de divergence. Mais les points communs sont aussi, je crois, importants à mettre en avant et précisément. Ils sont intéressants de mettre en avant en essayant de montrer que, si vous voulez, quand on dit pourquoi les gens ne constituent pas des mouvements sociaux, c'est aussi peut-être, hein, c'est aussi une hypothèse parce qu'ils n'en ont pas fondamentalement envie, c'est-à-dire que il n'y a pas une volonté, ou plutôt il y a une crainte de voir que ce qui a été gagné dans les années précédentes risque d'être remise en cause par un changement de régime politique. Donc on critique le parti, et là je voudrais dire quand même que quand on va en Chine, on entend beaucoup de critiques, y compris du parti, quand on discute de manière à bâton rompu dans le monde privé, mais aussi je dirais dans le monde académique, on critique le parti, etc. Ce qui est censuré, et ce qui met précisément ce qui pose problème, c'est une expression qui serait une expression publique, complète, d'édition de livres, etc., etc. Mais en même temps, c'est pas pour ça qu'il faut balayer d'une main la protestation en disant que du moment qu'elle ne donne pas naissance à un mouvement constitué, elle n'existe pas.
Vous êtes d'accord avec ce point de vue, Émilie Frenkel?
Je suis d'accord. Ce que je voudrais ajouter, et ce qui me semble intéressant
pour conclure,
de,
oui.
Voilà, c'est de dire que en 89, les étudiants parlaient de démocratie. C'était quelque chose qui, certains parlaient de démocratie. C'était quelque chose d'attrayant pour eux. À l'époque, ils ne savaient pas vraiment ce que c'était. Il y avait encore très peu d'échanges. Maintenant, avec le recul, on sait beaucoup plus comment fonctionne la démocratie américaine, comment fonctionne la démocratie européenne, comment fonctionne la démocratie taïwanaise, thaï, etc. Et en fait, c'est beaucoup moins attrayant pour les Chinois actuellement.
Ce sera un tout autre débat, sans doute plus tard. remercie beaucoup en tout cas à nos trois invités d'avoir été avec nous ce soir. Jean-Louis Roca, Émilie Frenkiel et Nicolas Béclin à l'autre bout du fil à Hong Kong, au sein, responsable au sein d'Amnesty International. Vous pouvez réécouter toute cette émission et la podcaster sur notre site franceculture.fr à la page du grain à moudre d'été. Et demain, on se retrouvera autour d'une toute autre question à l'occasion de la publication des nouveaux chiffres du chômage cette semaine. Qui peut, que peut le ministre du Travail ? Très bonne soirée à tous et à demain.